Restez avec nous, hein. Je pense que c'est très important. Vous pourrez bien entendu intervenir à n'importe quel moment de ce colloque. Et je vais demander à Paul Loubet, à Odile Launay, à Mélanie Galland-de-Vavrin de bien vouloir mettre leur caméra pour qu'on puisse les avoir maintenant à l'écran. Je vais passer tout de suite la parole à Paul Loubet, qui est infectiologue au CHU de Nice et qui a suivi depuis le début, d'ailleurs, les enquêtes qui ont été faites par le groupe Avenir, on en est déjà à la troisième. Il y a eu 2013, 2016 et 2020. Et donc, expliquez-nous un peu quels sont les résultats, Paul, de ces enquêtes et les leçons que vous en tirez.
Oui, bonjour à tous, merci. Donc, je suis du CHU de Nîmes, pas de Nice,
Ah,
mais non, il n'y a pas de souci. Donc, je souhaiterais commencer par remercier le groupe Avenir de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui dans ce colloque et leur dire combien je suis ravi de travailler avec eux depuis maintenant plusieurs années sur ce sujet important. Donc, avant de vous présenter les résultats de l'enquête sur les couvertures vaccinales et sur les opinions de la vaccination des personnes à risque, je voulais vous rappeler en quelques mots donc ce qu'on appelait une personne à risque accru d'infection et toute l'importance de la vaccination. On sait que les personnes que l'on dit à risque accru d'infection sont des personnes qui, du fait d'une maladie chronique, d'une immunodépression ou d'un traitement pris pour une de ces deux affections, sont plus à risque d'infection, c'est-à-dire vont faire des infections de manière plus fréquente et surtout des infections plus graves. Donc la vaccination, c'est bien sûr un pilier pour prévenir les infections chez ces personnes à risque et c'est pourquoi il y a certains vaccins qui leur sont spécifiquement recommandés. C'est le cas du vaccin contre la grippe ou du vaccin contre le pneumocoque. Et donc si on peut partir d'un constat qui est très important et qui est un petit peu à la base de ces enquêtes, c'est que la couverture vaccinale des adultes à risque en France est très basse. On peut le voir avec le tableau le premier tableau donc sur la gauche de cette diapositive qui s'intéresse à la couverture vaccinale contre la grippe. Donc vous pouvez voir que cette couverture vaccinale ne dépasse pas les 50% chez les personnes de plus de 65 ans et ne dépasse pas non plus les 30% chez les personnes de moins de 65 ans à risque. Donc exception faite bien sûr de l'année dernière, 2019-2020, où il y avait une forte incitation à la vaccination antigrippale du fait de la pandémie de Covid-19. Donc ces chiffres de mauvaise couverture vaccinale est encore plus flagrant si l'on regarde la couverture vaccinale contre le pneumocoque que vous avez ici, à partir des données de l'étude Covarisk, qui est donc une étude qui a été réalisée par le laboratoire Pfizer et dont les résultats sont très récents. Et donc cette étude,
Paul,
oui?
si je peux me permettre, on ne voit pas la bonne diapositive.
Ah. Alors chez moi ça passe, mais
Là, on est toujours sur la diapositive de titre.
oui. Est-ce qu'il faut passer?
Il faut que tu mettes en plein écran, Paul, je
Oui,
pense.
mais j'y suis. Enfin, j'y suis sur mon ordinateur, mais ça arrive souvent.
Voilà, c'est parfait.
Vous êtes en plein écran là?
Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, là, on a les couvertures vaccinales des adultes à risque avec les deux tableaux dont vous nous parliez.
Bien, mais écoutez, on va rester comme ça, si ça vous va. Donc, je vous
Parfait.
disais, hein, couverture vaccinale contre la grippe très faible. C'était encore plus flagrant avec le pneumocoque ou l'étude Covarisk, réalisé à partir des données de l'assurance maladie, des données de remboursement de l'assurance maladie, montre que à peine 5% des adultes à risque étaient correctement vaccinés contre le pneumocoque en 2018. Donc on voit qu'il y a des différences selon que les personnes sont immunodéprimées ou non immunodéprimées, mais porteuses d'une pathologie chronique. Mais malgré tout, même chez les immunodéprimés qui sont les plus à risque de formes graves de pneumocoque, d'infection à pneumocoque, on a moins de 20% de ces immunodéprimés qui sont correctement vaccinés contre le pneumocoque en 2018. Donc ces chiffres, on peut les mettre en balance avec ce qu'on a pu atteindre comme couverture vaccinale contre la Covid-19. Pierre Tadevin en parlait, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même contexte d'urgence sanitaire, mais on peut voir quand même qu'avec de la communication, qu'avec de l'éducation, et puis malheureusement aussi avec de l'incitation qui peut se rapprocher de l'obligation, on est quand même arrivé à des taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 qui sont excellents dans les populations les plus à risque. Vous voyez, plus de 94, voire 95% des patients transplantés d'organes qui sont vaccinés contre la Covid-19. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi on n'arrive pas à obtenir des chiffres de couverture vaccinale satisfaisants contre la grippe, contre le pneumocoque chez les adultes à risque. Donc c'est pourquoi on a essayé avec donc le groupe Avenir de réaliser une enquête chez des personnes à risque pour évaluer à la fois leur couverture vaccinale et puis les opinions et les pratiques concernant la vaccination. Donc, cette enquête qui s'est appelée donc, Avenir 3, donc Avenir, bien sûr, du nom du groupe qui organise le colloque aujourd'hui, et 3 parce que c'est le troisième volet. Il y avait déjà un premier volet d'enquête réalisé en 2013, un deuxième en 2016. Et donc là, l'idée était de voir un petit peu l'évolution des pratiques, des couvertures vaccinales. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée par Ipsos pour le laboratoire Pfizer, donc en partenariat, bien sûr, avec les associations du groupe Avenir. Vous voyez que plus de 2177 personnes considérées comme à risque car porteuses d'une ou plusieurs des pathologies que je vais vous évoquer ont été incluses dans cette enquête, qui était une enquête réalisée en ligne au cours de l'été 2020. Donc, sur ces 2177 personnes, 800 personnes provenaient d'un panel de répondants que Ipsos possédait déjà. Donc, toutes ces personnes étaient dans ce panel, mais étaient porteuses d'une pathologie chronique. Et le reste des patients, c'est-à-dire quasiment 1400 personnes, ont été incluses dans cette enquête grâce au relais qu'ont pu faire les différentes associations du groupe Avenir sur leur site internet, par exemple, ou via des newsletters à leurs adhérents. Donc, sur ces 2000 patients, vous voyez qu'on a deux tiers de femmes à peu près, deux tiers des personnes qui avaient plus de 50 ans, 40% des personnes faisaient partie d'une association patient, et vous voyez un petit peu le détail dans ces deux tableaux du nombre et des pathologies concernées par les patients, sachant qu'un patient pouvait avoir plusieurs pathologies. Donc vous voyez qu'en termes d'effectifs, les personnes qui ont répondu le plus souvent en plus grand nombre plutôt, étaient des personnes porteuses de rhumatisme inflammatoire chronique, et puis après on avait d'autres maladies auto-immunes, qu'elles soient dermatologiques, plus générales, ou gastro-entérologiques, des insuffisances respiratoires chroniques, insuffisances cardiaques chroniques, à type d'hypertension artérielle pulmonaire, des personnes insuffisantes rénales, dialysées ou non, des personnes greffées d'organes solides ou greffées de cellules souches hématopoïétiques, et enfin des personnes atteintes de tumeurs, qu'elles soient tumeurs d'organes solides ou d'hémopathie maligne. Donc je vais essayer de vous résumer un petit peu les grandes lignes et les grands messages des résultats qui étaient assez nombreux. Donc on a d'abord cherché à savoir la perception que pouvaient avoir les personnes qui ont répondu à cette enquête vis-à-vis de trois grandes pathologies. Donc on a profité du fait que la pandémie de Covid-19 est déjà commencée au moment de l'enquête pour introduire certaines questions concernant la Covid. Et donc ce que vous pouvez voir sur cette diapositive, c'est que quand même globalement, les patients qui ont répondu à cette enquête se sentent plus à risque de faire des formes graves de Covid, de pneumocoque ou de grippe que la population générale, mais on a quand même entre 20 et 25% des gens qui ne se sentent pas plus à risque et donc qui n'ont pas cette perception d'un surrisque d'infection grave. Quand on s'intéresse à l'opinion de manière générale sur la vaccination de ces personnes qui ont répondu à l'enquête, donc vous voyez qu'elle est globalement très favorable, on a quasiment 9 personnes sur 10 qui se disent très favorable ou plutôt favorable à la vaccination. Donc ce chiffre me permet de souligner que à la fois ce chiffre et dans le reste de l'enquête, on a probablement quand même une surestimation, c'est-à-dire plutôt en faveur de la vaccination, que ce soit sur les couvertures vaccinales ou sur l'opinion, car on était en présence de personnes qui, on l'a vu, pour 40% d'entre elles, faisaient partie d'associations de patients et qui sont déjà favorablement plutôt ouverte à la question de la vaccination et plutôt favorable. Et donc cet échantillon de patients n'est probablement pas complètement représentatif de toutes les personnes à risque françaises, mais sont quand même des données importantes. Donc, si l'on regarde ensuite la question concernant les connaissances sur les vaccins, donc vous voyez qu'on a à peu près moitié-moitié, 50% des personnes qui connaissent les vaccins qui leur sont spécifiquement recommandés du fait de leur maladie ou du fait des traitements qu'ils prennent. Donc on peut voir ce chiffre de deux manières. On a mis pour rappel les chiffres qui avaient été obtenus au moment de l'enquête en 2016. Donc on est à plus 6% de personnes qui connaissent les vaccins qui leur sont spécifiquement recommandés. Mais on peut quand même dire que ce chiffre de 50% est encore trop faible. La moitié d'entre eux ne sont pas au courant des vaccins qui leur sont spécifiquement recommandés. Si l'on passe maintenant aux couvertures vaccinales, vous avez sur la partie gauche la couverture vaccinale contre la grippe. Sur la partie droite, c'est la couverture vaccinale contre les infections à pneumocoque. Donc vous voyez, contre la grippe, on est à 63% de personnes qui avaient été vaccinées lors de la saison 2019-2020. Ce sont des chiffres qui sont élevés, on l'a vu, plus élevés que les chiffres de population générale que je vous ai présentés, probablement par le biais de mauvaise représentativité de notre échantillon. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que sur les 40% à peu près de personnes non vaccinées, vous avez les raisons déclarées de non-vaccination. Et on voit que la première est la peur des effets indésirables liés au vaccin contre la grippe. La deuxième, un doute sur l'efficacité du vaccin. Et après, le fait que le vaccin n'ait pas été proposé. Si l'on regarde maintenant le fait, pardon, la vaccination contre les infections à pneumocoque, on voit que 65% des personnes déclarent avoir été vaccinées contre le pneumocoque, dont on est bien sûr largement au-dessus du chiffre de moins de 20% que je vous présentais de l'étude Covarisk tout à l'heure. Ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi ces 65%, il n'y en a que 41% qui sont sûrs d'être à jour de leur vaccination, ce qui montre bien que le schéma de vaccination et le vaccin contre le pneumocoque en soi est quand même moins bien connu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait certains d'être vaccinés. Et un autre point très important, c'est que sur les 35 à 40% qui ne pensent pas être à jour, la raison principale évoquée de non-vaccination pour deux tiers d'entre eux, c'est que le vaccin n'a pas été proposé. Donc on n'est pas du tout comme pour le vaccin contre la grippe dans des hésitations et des considérations qui sont vraiment autour de l'hésitation vaccinale, la peur des effets indésirables, le doute sur l'efficacité qui ne sont non fondés mais qui existent depuis de nombreuses années avec le vaccin contre la grippe. Pour le vaccin contre le pneumocoque, si les personnes ne se font pas vacciner, c'est clairement parce que le vaccin ne leur est pas proposé. Et donc là, c'est vraiment un point majeur quand on parle de l'éducation et de la communication auprès des patients. Donc, si on regarde ensuite des facteurs qui peuvent faire influer la couverture vaccinale, pour les personnes qui étaient vaccinées contre la grippe, je vous le rappelle, donc 63%, on voit que ce chiffre est plus important chez les personnes qui se considèrent plus à risque. Il diminue ensuite lorsque l'on se considère moins à risque. Et donc là aussi, c'est un point capital, à mon sens, à mettre en avant lorsque l'on discute de la vaccination avec les patients, c'est leur expliquer pourquoi il est important de se faire vacciner, quels sont les risques s'ils ne se font pas vacciner. Donc ce besoin d'information, il est assez clair, hein, il ressort clairement des réponses apportées par les personnes qui ont répondu à cette enquête. Lorsque l'on demande aux personnes qui ont répondu quelles sont les informations qu'ils souhaiteraient obtenir, on voit que dans les premières réponses, c'est des informations sur les vaccins qui sont recommandés du fait de leur état ou de leur traitement. Les maladies contre ces vaccins protègent, et donc là, c'est principalement hein, bien sûr les infections à pneumocoque qui sont mal connues. Les raisons pour lesquelles ils doivent se faire vacciner, également un point important aussi qui n'est pas assez souvent abordé, c'est le moment, le meilleur moment, le moment le plus adéquat pour se faire vacciner vis-à-vis du début d'un traitement immunosuppresseur par exemple ou vis-à-vis de l'évolution de leur pathologie. Un point important également, donc ces informations de qui les patients veulent qu'elles viennent. Donc on leur a demandé les trois sources d'informations dans lesquelles ils ont le plus confiance pour informer sur la vaccination. Donc, de manière, on va dire, peut-être assez rassurante, on voit que c'est les professionnels de santé qui apparaissent en premier dans ses réponses, le médecin généraliste en premier lieu, très largement au-dessus, puis le médecin spécialiste, les pharmaciens, viennent ensuite les associations de patients, les pouvoirs publics. Donc on voit tous les acteurs qui peuvent intervenir dans l'information de ces patients pour la vaccination. Quand on a demandé effectivement qui vous a suggéré de vous faire vacciner contre la grippe hein, au cours de l'hiver 2019-2020, là aussi on voit de manière assez logique que ce sont les médecins qui arrivent en premier lieu. On voit également que d'autres professionnels de santé peuvent avoir proposé la vaccination. Et là aussi, c'est vraiment un point majeur, à mon sens, c'est de mettre en avant les autres professionnels de santé, autres que les médecins, pour parler de la vaccination et pour augmenter la couverture vaccinale. On l'a vu, ça marche avec les pharmaciens pour la grippe, pour la COVID-19, il faudrait le faire pour d'autres vaccinations. Un point également important à souligner, qui sera peut-être abordé plus tard dans le colloque, c'est pour la vaccination antigrippale, on voit bien l'impact que peuvent avoir les bons de vaccination envoyés par l'assurance maladie. Et c'est quelque chose qu'il faudrait probablement décliner pour les autres vaccinations, telles que la vaccination contre le pneumocoque. Et enfin, donc, comme je vous le disais, on avait profité du fait que la pandémie de COVID-19 est déjà débutée pour introduire la notion d'impact de la COVID-19 sur l'opinion par rapport à la vaccination. Donc, je vous le rappelle, l'enquête s'est déroulée au cours de l'été 2020. Donc, les vaccins contre la COVID-19 n'étaient pas encore disponibles, mais on avait déjà affronté plusieurs vagues épidémiques. Et donc, ce qui ressort de cette question sur la COVID-19, c'est que deux tiers des patients sont convaincus par la COVID-19 qui avait déjà commencé, de se faire vacciner et de se faire vacciner avec les autres vaccins qui leur sont spécifiquement recommandés. Et ce rapport à la vaccination était, enfin, le fait, les personnes étaient encore plus convaincues lorsqu'elles étaient favorables de base à la vaccination, ce qui semblait assez logique. Donc, en conclusion sur cette enquête, on a vu que les couvertures vaccinales grippe et pneumocoque, même si je vous ai présenté des résultats probablement surestimés, sont encore non optimales. On voit bien que pour la grippe, on rentre clairement dans des considérations d'hésitation vaccinale avec des peurs un petit peu infondées, à la fois sur l'efficacité et sur les effets indésirables. Pour le pneumocoque, c'est complètement différent. Les patients et les médecins manquent de connaissances sur la fréquence et la gravité le fardeau, on va dire, de manière plus générale, des infections à pneumocoque chez les personnes immunodéprimées, les personnes à risque en général, manque d'informations sur les vaccins disponibles et sur les schémas de vaccination. Et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on peut travailler. On voit aussi, et à mon sens, il va falloir profiter, Dominique Godard l'a très bien dit, il va falloir surfer sur la vague et l'impact positif qu'a pu avoir la pandémie sur la perception du risque. Maintenant, tout le monde a compris ce qu'était une personne à risque. On l'a bien vu avec la COVID-19, et ce sont des personnes qui partagent les mêmes risques pour les infections par le virus de la grippe et les infections à pneumocoque. Et on voit bien aussi l'élan qu'on a pu avoir à atteindre des chiffres de couverture vaccinale, je vous l'ai dit, chez des personnes à risque très élevées. Il faudrait qu'on puisse les atteindre avec d'autres pathologies. Et enfin, le dernier point qui est à mon sens le point à retenir de cette présentation, c'est que plus on va informer et plus on va proposer la vaccination, et mieux les patients vont comprendre l'intérêt de la vaccination, et mieux ils vont être vaccinés. Donc ça, bien sûr, c'est un rôle que doivent avoir préférentiellement les médecins, mais pas que. On l'a vu, les autres professionnels de santé, mais également les pouvoirs publics et les associations de patients. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous ai mis les références à deux articles que nous avons publiés sur cette enquête que vous pouvez aller voir, qui sont en accès libre et dans lesquels vous aurez les résultats beaucoup plus détaillés que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Merci. On vous entend pas, pardon. Je vous entends.
Ah, pardon, j'avais coupé le micro pour pas avoir de bruit, pour pas vous faire de bruit parasite. Je disais, ça montre combien ces efforts de communication sont nécessaires et combien, quand il y a une mobilisation générale, on peut arriver à des résultats qui sont des résultats tout à fait positifs. Donc, il faudra poursuivre cette mobilisation qui a lieu sur le Covid pour l'étendre sur d'autres vaccins comme la grippe, le pneumocoque en particulier. Ça me donne tout de suite une transition pour demander à Odile Launay, qui est professeure d'infectiologie et membre du comité scientifique vaccin Covid-19 à l'hôpital Cochin, si elle peut brancher sa caméra et nous dire pourquoi la vaccination, justement chez les patients qui sont des patients à profil à risque accru d'infection, est aussi importante.
Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette réunion qui, je pense, est extrêmement importante parce que on avait déjà eu une réunion de ce type il y a maintenant 4 ou 5 ans qui avait permis de poser un certain nombre de points et de questions. Et je crois, comme on l'a dit, que le Covid doit permettre de reprendre ces points et d'essayer d'avancer encore dans les efforts qui doivent absolument être faits pour améliorer la couverture vaccinale dans ces populations, pour ces patients qui sont particulièrement fragiles. Pourquoi c'est extrêmement important de pouvoir améliorer la couverture vaccinale dans ces populations? Paul l'a dit, c'est des populations qui sont particulièrement à risque de faire des infections et des infections graves. Et on sait que l'infection, dans un certain nombre de situations, représente le principal facteur, la première cause à la fois de morbidité, mais aussi de mortalité pour un certain nombre de ces personnes. Et peut-être que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas suffisamment mis en avant et qu'on doit absolument souligner. Je crois que le Covid, là encore, l'a bien montré. Ces populations, en tous les cas, une partie d'entre elles, ont été particulièrement touchées par cette pandémie. Et Dominique Godard l'a bien dit, ces personnes, pour certaines d'entre elles, se sont cloîtrées maintenant depuis bientôt 2 ans parce qu'elles étaient vraiment très inquiètes et à juste titre de faire une forme grave de cette infection. Alors, pour certaines des infections, et en particulier les infections respiratoires, on dispose de vaccins, donc on a des vaccins contre la grippe, on a des vaccins contre le pneumocoque, on a maintenant un vaccin contre le Covid. Je crois qu'il ne faut pas oublier les autres vaccins, en particulier, vous avez parlé de la coqueluche, mais il y a aussi le papillomavirus pour les plus jeunes, et puis on espère bientôt un vaccin contre le zona. Donc finalement, l'arsenal, l'éventail en tous les cas des vaccins qui pourront être utilisées va s'élargir. Et c'est particulièrement important de pouvoir éduquer et promouvoir finalement la vaccination dans ces populations. Alors, Paul l'a bien dit, pourquoi finalement on n'arrive pas à augmenter cette couverture vaccinale? Alors, il faut quand même voir les choses positives. Il y a eu une augmentation de la couverture vaccinale dans ces populations grâce en fait à des efforts, bien sûr, de la part des associations de patients. Et je crois qu'Avenir, vraiment, c'est l'illustration de l'importance que les associations de patients peuvent jouer et comment ils peuvent sensibiliser à la fois les patients, bien sûr, mais aussi les professionnels et les pouvoirs publics. Et j'espère que cette réunion d'aujourd'hui va permettre aussi de sensibiliser à nouveau les pouvoirs publics sur l'importance de la vaccination, en particulier pour ces populations les plus fragiles. Alors pourquoi on a des difficultés? On était jusqu'à présent, Pierre Tadevin l'a rappelé, le pays au monde où l'hésitation vaccinale était la plus élevée. Hein, on apparaissait vraiment comme le pays avec la plus forte hésitation vaccinale. Là aussi, peut-être une petite note d'optimisme, après un début un peu difficile de la vaccination Covid, finalement, la France est parmi les pays pour lesquels la couverture vaccinale Covid est la plus élevée. Hein, et c'est, je crois, quand même quelque chose qu'on doit souligner. On est à plus de 90% de couverture vaccinale dans les populations qui sont visées par la vaccination Covid. Alors, il reste encore un peu moins de 10% de personnes pas vaccinées, là où on peut peut-être être un peu plus inquiet, c'est que ces 10% de non-vaccinés, on les retrouve aussi dans les populations les plus à risque. Et ça, c'est évidemment un problème, parce que ces personnes non-vaccinées et qui présentent des facteurs de risque pour les Covid sont celles qui aujourd'hui représentent des risques d'hospitalisation, y compris avec Omicron, même si Omicron apparaît comme un variant peut-être moins grave et moins souvent responsable de formes sévères. Alors cette hésitation, elle est à la fois rencontrée à la fois en population générale, mais elle est aussi rencontrée dans certains professionnels chez certains professionnels de santé. Vous l'avez rappelé, hein, et on sait aujourd'hui que l'impact de certains professionnels de santé qui s'expriment très largement, non seulement dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, ont un effet extrêmement délétère sur l'acceptation ou l'adhésion à cette vaccination. Et ça se voit aussi dans les populations qui sont les plus à risque. Donc on a aujourd'hui vraiment une inquiétude vis-à-vis de ces professionnels qui, en tant que professionnels, ont une certaine autorité, un certain aura, et qui vont finalement désinformer et inquiéter à tort ces populations qui finalement ne seront pas vaccinées. Alors, quelles sont les recommandations pour essayer d'améliorer la couverture vaccinale et la protection de ces personnes à risque? Peut-être on peut les décliner en plusieurs classes de mesures. Il me semble qu'une mesure extrêmement importante, c'est d'abord la formation. Et la formation, c'est la formation des professionnels de santé, à la fois la formation initiale et la formation continue. Et on sait que la France ne donne pas une part très importante à la prévention et que on a un volume horaire pour ce qui concerne la prévention en général, mais la vaccination en particulier, qui est extrêmement réduit. Et de fait, quand on interroge les étudiants en médecine, ils considèrent qu'ils n'ont pas eu suffisamment dans leur formation d'éléments leur permettant de pouvoir répondre aux questions que se posent les personnes qui sont hésitantes vis-à-vis de la vaccination. Donc je crois qu'il y a vraiment un travail à poursuivre sur la formation à inciter vraiment les doyens des facultés de santé à augmenter le volume horaire. Alors, les étudiants ont évidemment énormément de connaissances à acquérir, mais on doit absolument augmenter les volumes horaires de formation dans la formation initiale vis-à-vis de la vaccination. Alors, c'est vrai aussi en formation continue, puisqu'on l'a dit, il y a énormément de recherches dans le domaine de la vaccination. C'est parmi aujourd'hui les médicaments dans le domaine de l'infectiologie qui connaissent le plus de recherches et de développement de nouveaux vaccins. Et ça veut dire qu'en plus de la formation initiale, on doit assurer une formation médicale continue de qualité pour permettre aux professionnels de santé d'être à l'aise avec l'arrivée de nouveaux vaccins. On a parlé de la grippe. Il y a des vaccins fortement dosés aujourd'hui qui sont disponibles. Il faut savoir les utiliser. Et on a parlé du pneumocoque. Il y a des nouveaux vaccins pneumocoques qui vont arriver. Donc, c'est l'occasion peut-être de à nouveau informer sur cette vaccination et sur son importance. Le zona, de la même façon. Et puis, on l'a vu, l'ARN avec le Covid et probablement d'autres applications donc, vont permettre de développer de nouveaux vaccins qui, on l'espère, seront plus efficaces, y compris pour les personnes qui ont des immunodépressions. Donc la formation, pour moi, c'est vraiment quelque chose de capital. En plus de cette formation, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant, et ça c'est le rôle aussi de notre société savante, pour avoir des recommandations qui soient mises à jour et mises à jour régulièrement. On avait fait un gros travail au moment du CTV et du Haut Conseil de Santé Publique, mais ces recommandations maintenant commencent à être anciennes. Et donc il faut... Je pense qu'on insiste pour que ces recommandations soient mises à jour et qu'on puisse de ce fait fournir aux professionnels de santé des recommandations sur lesquelles ils peuvent se baser pour mettre à jour et vacciner leurs patients. Le troisième point, je pense que c'est un point sur la promotion de la vaccination. Alors, la promotion, on l'a vu pour le Covid, et je crois que c'est Paul qui l'a rappelé, quand il y a un engagement très fort des politiques et du ministère de la Santé, eh bien, on arrive quand même à vacciner, y compris en France où la population est hésitante. Donc, si on arrive à 90% de couverture vaccinale avec le Covid, on doit arriver à augmenter de façon importante aussi la vaccination contre le pneumocoque. Et je crois que la promotion de la prévention et de la vaccination, je l'espère en tous les cas, sera vraiment une part importante des programmes de santé pour les années qui viennent, même si c'est finalement quelque chose qui n'est pas rentable à court terme. Hein, et peut-être que c'est ce point-là qui fait que ça ne fait pas toujours partie des programmes aujourd'hui. On a parlé de l'implication des professionnels de santé autres que les médecins. Je crois que c'est un point très important. Paul l'a souligné. On a vu qu'avec la vaccination grippe, l'implication des pharmaciens permettait d'augmenter la couverture vaccinale. On doit absolument ouvrir la vaccination à d'autres professionnels de santé que les médecins, puisque aujourd'hui, les médecins traitants sont de moins en moins, les médecins généralistes sont de moins en moins nombreux. Donc, n'ont pas obligatoirement la possibilité de faire cette vaccination. Ceci dit, il avait été envisagé de pouvoir monter des consultations spécifiquement dédiées à la prévention et en particulier à la vaccination. Et ça, je pense que ça pourrait être quand même quelque chose qu'on pourrait mettre en avant, c'est-à-dire qu'on puisse, chez des personnes fragiles, proposer qu'il y ait une consultation spécifiquement dédiée à la prévention du risque infectieux. Certains hôpitaux le mettent en place avec des hôpitaux de jour. Je pense en particulier aux patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique. Ça peut être quelque chose qu'on peut développer. Et de la même façon, dans beaucoup d'hôpitaux, les infectiologues montent des consultations dédiées à la prévention du risque infectieux qui permettent de revoir, avant la mise en route d'un traitement immunosuppresseur, si on peut, le statut vaccinal et mettre à jour donc les vaccins qui seraient manquants. Et puis toujours dans le cadre de l'amélioration, ça fait longtemps qu'on plaide pour un carnet de vaccination électronique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à connaître de façon précise l'état vaccinal des patients. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et on a vu avec le Covid qu'on avait maintenant des bases informatiques de vaccination Covid. Ça veut dire que c'est faisable et qu'il faut absolument qu'on puisse le faire pour les autres vaccins. Et dernier point peut-être, parce que j'ai été peut-être un peu longue, la promotion vraiment de cette vaccination, Paul l'a rappelé, hein, le bon de vaccination pour la grippe est associé de façon très forte à la couverture vaccinale. Il est tout à fait possible, avec les systèmes informatiques qui existent aujourd'hui, de pouvoir faire de même pour les autres vaccins qui sont recommandés dans cette population. Donc je pense que et j'espère en tous les cas que le colloque de ce matin va permettre de poser un certain nombre de points d'amélioration. On est quand même sur la bonne voie. Je pense que le Covid doit permettre vraiment de faire prendre conscience de l'importance de la vaccination. Et donc, on devrait, avec la situation actuelle, et puis l'organisation de colloques de ce type-là, arriver à être force de proposition pour les pouvoirs publics pour améliorer la protection de ces personnes qui, aujourd'hui, restent vraiment très insuffisamment vaccinées quand on voit les résultats qu'a présenté Paul. Voilà, pardon d'avoir été un peu long.
Non, Odile, merci beaucoup. Au contraire, pour toutes ces explications, c'est très important. D'ailleurs, à la suite de ce colloque, bien entendu, il y aura une plateforme de proposition. Restez, voilà, très bien. Il y aura une plateforme de proposition qui sera élaborée sur la base de toutes ces discussions. Et donc, ça permettra d'avoir un élément qui permettra également d'aller sensibiliser les pouvoirs publics, le politique et l'administration qui, comme chacun sait, ne sont pas une entité globale et cohérente. Chacun a ses objectifs, mais je pense qu'on peut faire avancer les deux si les deux bénéficient de la même information. Moi, j'ai une question quand même à vous poser. On parle de consultation de prévention. Au passage, la France dépense, comme tous les pays de l'OCDE, à peu près 15 milliards d'euros tous les ans sur la prévention. La différence, c'est que dans certains pays, c'est efficace. En France, ça ne l'est pas. On ne sait pas véritablement et on n'a pas véritablement évalué les actions de prévention, mais il y a un très, très intéressant rapport de l'IGAS qui vient de sortir, qui montre qu'en ce qui concerne les moyens, on a ce qu'il faut pour pouvoir se développer, mais que les méthodologies des campagnes de prévention sont malheureusement beaucoup moins efficaces en France qu'ailleurs. Mais pour revenir sur ces consultations de prévention, il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est si vous arrivez à convaincre quelqu'un de se faire vacciner dans une consultation comme celle-là, comment se fait-il qu'on n'ait pas à ce moment-là la possibilité de le vacciner immédiatement, dans le même endroit, dans la discussion, et qu'on soit obligé de mettre un phénomène de rupture, qu'il soit obligé d'aller acheter son vaccin en pharmacie, de le ramener ensuite soit chez son médecin, soit chez une infirmière ou une sage-femme quand c'est du HPV, et ainsi de suite. On est quand même, on complexifie un peu la chose, là. On pourrait peut-être avoir une action commune et cohérente à ce moment-là.
Alors, oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. Peut-être que, d'ailleurs, ça fait partie des coûts engendrés qui ne permettent pas, finalement, d'avoir programme aussi efficace. Aujourd'hui, le circuit pour se faire vacciner est relativement compliqué, c'est-à-dire que le médecin va prescrire le vaccin, ensuite le patient va aller chercher son vaccin à la pharmacie, et puis il doit soit trouver une infirmière, soit revenir voir son médecin pour se faire vacciner. C'est vrai aussi à l'hôpital où en fait les pharmacies hospitalières n'ont pas le droit de délivrer des vaccins pour des patients qui sont vus en ambulatoire. Et on sait, ça a été très très bien montré, que ce parcours complexe de la vaccination est un frein très important à la vaccination. Et des projets ont été montés. Nous, on a monté par exemple avec la maternité de Port-Royal un projet sur la mise à disposition des vaccins grippe au cours des consultations de suivi des femmes enceintes qui ont permis d'augmenter de façon considérable la couverture vaccinale. Donc, on permet avec la possibilité de vacciner tout de suite, d'une part, de vacciner des gens qui seraient hésitants, et on l'a vu aussi avec le Covid, hein, parmi les patients qui étaient hésitants, si on leur disait, bah, écoutez, allez-y tout de suite, on va vous vacciner, bah, finalement, ils y allaient. Si, par contre, ils devaient aller dans un centre de vaccination, bah, soit ils étaient convaincus, ils le faisaient. S'ils avaient un petit doute ou finalement une négligence, bah, ils ne se faisaient pas vacciner. Donc, moi, je suis convaincue que la possibilité d'avoir à disposition tout de suite le vaccin, c'est un point vraiment majeur pour améliorer la couverture vaccinale. Et ça fait longtemps qu'on essaye de se battre contre ça. Il y a des freins d'ordre réglementaire et de compétition, pas de compétition, mais de mise à disposition des produits pharmaceutiques par les pharmacies hospitalières qui posent problème. Donc la simplification du parcours vaccinal, ça c'est un point majeur sur lequel on doit absolument travailler pour améliorer la couverture vaccinale, c'est clair.
Merci beaucoup. Alors Mélanie, ce qui est intéressant, vous, dans votre pathologie, c'est que, puisque vous souffrez, enfin vous êtes la présidente de l'association Hypertension artérielle pulmonaire France, vous êtes très confrontée au risque d'immunosuppression et d'immunodépression. Quel est votre parcours? Quel a été votre parcours vaccinal et qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement pour faire en sorte qu'on puisse rebondir de manière positive sur cette crise et sur tous ces efforts qu'on fait autour de la vaccination.
Alors, merci Olivier pour cette introduction. Je vais un tout petit peu rectifier, je ne suis pas la présidente de l'association, parce que la présidente de l'association nous écoute, donc je ne vais quand même pas me faire passer pour elle. Donc moi, je suis directrice de l'association HTAP France. Et en effet, dans notre association, nous avons deux types de publics qui sont des personnes à risque accru d'infection, et aussi des personnes immunodéprimées, parce que dans l'association, nous avons également des greffés pulmonaires ou cardio-pulmonaires. Donc, on a un petit peu les deux types de vécu. Et pour ma part, en fait, j'ai connu les deux situations puisque j'ai eu pendant très longtemps une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, on est dans le domaine de la maladie rare, tout le monde ne connaît pas, mais c'est vrai que quand on parle de personnes à risque accru d'infection, il y a un certain nombre de maladies rares qui sont concernées. Mais ce n'est pas uniquement des maladies rares, c'est vrai pour toutes les personnes qui sont des insuffisants respiratoires, des insuffisants cardiaques. Toutes ces personnes-là savent, en principe, en tout cas elles sont éduquées pour le savoir, que si elles multiplient les infections, en particulier si elles attrapent la grippe, si elles attrapent une infection pulmonaire à pneumocoque, ça risque d'aggraver momentanément ou définitivement leur maladie chronique. Généralement, très tôt dans la maladie, on est sensibilisé au fait que c'est très important de se faire vacciner contre le pneumocoque, contre la grippe. Et alors, pour quelqu'un comme moi qui a été malade depuis l'enfance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est rabâché depuis tellement longtemps que ça fait partie du quotidien, c'est la norme, mais tous les malades ne le savent pas parce que certains, il y a un moment donné, on entre dans la maladie et on ne sait pas tout de suite. Et puis, il faut bien reconnaître aussi que pour les médecins eux-mêmes, c'est une préoccupation qui vient au milieu de plein d'autres. En fait, on est des malades qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas forcément faciles à traiter. On peut avoir des traitements rares, des traitements complexes, des traitements lourds. Alors, même si on va voir son généraliste plus ou moins régulièrement, le généraliste, c'est son rôle hein, de parler de prévention, de nous sensibiliser pour éviter la grippe ou autre. Mais avec les différents traitements qu'on peut avoir, pour lui, ça peut ne pas paraître évident que c'est son rôle à lui et que le spécialiste l'a pas déjà fait par ailleurs. Et à l'inverse, le spécialiste, lui, se dit que c'est de la pratique courante et que donc forcément, le généraliste aura fait son travail. Donc, certains d'entre nous passent à travers les mailles du filet, qu'il s'agisse de malades qui ont une maladie chronique qui les prédispose à des formes graves d'infection, pour la grippe, pour la Covid, pour les infections à pneumocoque ou autres, ou bien pour les greffés. Donc, je trouve que c'est là que le rôle des associations est particulièrement important, c'est de rappeler aux malades qui ont pu passer à travers les mailles du filet, leur dire, vous savez, vous êtes des personnes à risque. Et alors, soit vous pouvez être vacciné, soit vous ne pouvez pas. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas l'être, ou alors dans lesquelles le vaccin n'est pas efficace. Dominique, tout à l'heure, l'a illustré, elle a bien eu ces trois vaccins de primo-vaccination, et puis ça n'a pas suffi. Donc, par chance, elle a pu bénéficier de prévention par perfusion d'anticorps monoclonaux. Mais aujourd'hui, elle se trouve de nouveau dans une situation dans laquelle elle n'est plus couverte. C'est vraiment important de le savoir parce qu'il y a des mesures à appliquer. Et c'est là, comme on le dit depuis tout à l'heure, le vaccin est une chose pour les personnes immunodéprimées, les personnes à risque d'infection. Mais enfin, tous les autres gestes ont leur importance. Et quand la vaccination ne couvre plus, quand il n'y a pas d'anticorps monoclonaux, quand il n'y a pas d'antiviraux, il faut vraiment tout mettre en œuvre, donc les gestes barrières, le lavage des mains. Nous, les personnes immunodéprimées ou personnes à risque, c'est quelque chose normalement auquel on est habitué. On sait se laver les mains depuis des années. Là, on voit que depuis 2 ans, les Français ont enfin appris à se laver les mains parce qu'on n'était pas non plus, si on n'était pas des champions de la vaccination, on n'était pas non plus des champions de l'hygiène des mains. Alors, on peut tous faire des progrès dans ces domaines-là, mais c'est vraiment... en fait, la vaccination, c'est un geste parmi d'autres. Alors, il est essentiel, mais il n'est pas le seul. Qu'il s'agisse de personnes immunodéprimées, réellement immunodéprimées, ou bien de personnes à risque accru d'infection, il y a tout un arsenal de mesures à mettre en place. Je suis contente d'ailleurs que les précédents orateurs ont soulevé ces questions. J'ai l'impression que, enfin, c'est clair dans une réunion comme celle-ci qu'on va tous, dans le même sens et qu'il y a des synergies qui se mettent en place. Je veux remercier le professeur Launay parce qu'elle est auprès de nous depuis 2013 auprès du groupe Avenir, pour nous aider à faire passer des messages. Remercier Dr Paul Loubet parce que c'est grâce à lui qu'on a pu mettre en place les différentes enquêtes et qu'aujourd'hui on a des données à mettre en avant. Parce que en fait, ce dont on fait part aujourd'hui, la difficulté de trouver la bonne information, de savoir quelle situation est la nôtre, est-ce qu'on est bien protégé, pas tout à fait bien protégé, est-ce qu'on doit avoir un vaccin, est-ce qu'on ne doit pas l'avoir, est-ce qu'on doit en avoir plus, est-ce qu'on doit avoir une forme particulière de vaccin, toutes ces questions-là, en fait, nous, associations, avions l'intuition en 2012, 2013, au moment où nous sommes réunis, qu'il y avait effectivement un déficit d'information, aussi bien du côté des malades que du côté parfois des soignants. Donc, c'est nécessaire, en fait, quand on a des intuitions, ben, l'important, c'est d'arriver à les mettre en évidence avec des chiffres. Ça, c'est ce que Paul Loubet nous permet de faire. Si aujourd'hui, en cette période de pandémie, la vaccination est devenue un sujet de préoccupation majeure, il y a un système, une vaste campagne de vaccination qui s'est montrée efficace. Alors, même si certains en doutent, tout à l'heure, le professeur Tadevin a mis l'accent sur le fait que c'était quand même une campagne qui avait un effet positif, qu'on pouvait quand même se féliciter de ce succès. Le succès de la vaccination montre aussi qu'il y a quand même une confiance dans cette politique de prévention. C'est vrai qu'on entend beaucoup les gens qui sont contre, mais en réalité, quand on voit le taux de couverture qu'on a en France, ça dénote quand même une confiance qui est importante. Et chez nous, les patients immunodéprimés, les personnes à risque, c'est aussi une confiance qui est quand même très, enfin, qu'on doit vraiment mettre en avant, qu'il ne faudrait pas nier. Mais ce qui a été dit déjà auparavant aussi, c'est que même si cette campagne inédite fonctionne bien, il faut surtout pas oublier qu'il y a un recul significatif des vaccinations de routine, en particulier chez l'adolescent et chez l'adulte, hein, comme l'a souligné Dominique Godard, que un certain nombre de vaccins sont sous-administrés. C'est le cas des vaccins contre le papillomavirus, les vaccins rougeole, oreillon, rubéole, vaccin antitétanique, le vaccin contre le pneumocoque qui nous concerne tout particulièrement. Si on a dit au début de la pandémie qu'il y avait eu un recul de la prise en charge de la santé en général, bah là, c'en est bien une preuve. La plupart de ces vaccinations avaient une couverture qui était sous-optimale déjà avant la pandémie. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier. Et donc, les chiffres de l'enquête à venir sur la couverture grippe et pneumocoque le mettent encore en évidence. Donc, nous, association de patients engagés dans ce groupe Avenir, il y a tout un tas de propositions que nous faisons depuis un moment, comme celle qu'a pu évoquer Odile Launay, les bons de vaccination, la coordination entre les professionnels de santé, le suivi via un outil technologique comme un carnet de santé électronique, par exemple. Une information qui doit être personnalisée, qui doit être récurrente, comme on a pu le faire, comme on a vu que ça avait été fait pendant la pandémie. Étendre les compétences vaccinales à d'autres professions que le médecin généraliste, renforcer la formation initiale des médecins, renforcer la formation continue sur la vaccination des populations spécifiques, toutes ces actions-là, elles sont à ne pas laisser tomber, à renforcer. La crise a montré que des évolutions étaient possibles. Donc, il faut vraiment saisir de ce moment pour continuer à protéger contre la COVID, bien sûr, mais contre les autres infections, parce que malheureusement, elles ne disparaissent pas et elles continuent à impacter les patients, les malades. C'est vrai que si maintenant on a un COVID qui semble moins grave, n'empêche que pour les patients immunodéprimés, les personnes à risque d'infection, faire un Covid, c'est quand même quelque chose qui peut être risqué. On peut toujours décéder suite à une grippe ou une pneumonie. Donc, sont vraiment des éléments qu'on ne doit pas perdre de vue. Et pour ce qui est des malades qui eux-mêmes ne peuvent pas être vaccinés ou chez qui le vaccin ne fonctionne pas, il y a des stratégies comme la stratégie de cocooning qui fonctionne bien, c'est-à-dire ce qu'on disait, ce qui a été cité auparavant, c'est vacciner toute la famille autour d'un malade. La famille, les proches collaborateurs, si c'est une personne qui travaille. Quand une solution ne fonctionne pas, il faut vraiment explorer toutes les autres. Donc, à notre sens, c'est nécessaire de pérenniser, d'étendre ce qui a été bien fait pendant cette crise, hein, parce qu'il faut, on a plutôt cette volonté de voir les choses positivement. Les pouvoirs publics se sont réellement mobilisés, les grandes campagnes ont fonctionné, on a mobilisé tous les professionnels de santé pour promouvoir la vaccination et vacciner, c'est ce qu'il faut continuer de faire. Et nous encourageons la mobilisation des autorités, des institutions, des professionnels, des acteurs de santé privés, les malades, les associations sur les questions relatives à la vaccination, particulièrement sur le renforcement du parcours vaccinal des adultes à risque. Tous ensemble, en fait, pour protéger les plus vulnérables que nous sommes, mais que sont surtout les patients concernés.
Donc, le 13 janvier 2022, vous lancez un appel à la mobilisation générale pour qu'il y ait une prise de conscience sociétale autour de la vaccination en général et des personnes à risque en particulier. Alors, moi, j'ai une question à vous poser derrière tout ça, parce que c'est bien, mais je ne voudrais pas que ça soit non plus, ça devienne le sujet majeur du colloque. Mais si on regarde les médias, si on regarde en particulier les réseaux sociaux, on a un vrai problème de désinformation sur les vaccins. Il y a des gens qui sont gênés, ils ont fait beaucoup de débunkage d'antivax. Il y a des gens qui sont extrêmement toxiques avec des arguments qui sont extrêmement pourris, on va dire, pour être sémantiquement précis, et qui luttent contre cette confiance et qui désinguent, en fin de compte, les messages de confiance que les autorités sanitaires, les associations de malades peuvent faire passer. Il y a quelque chose, par exemple, qui est signalé par Maïté et Delphine Dubois dans le chat, c'est que cette notion de confiance est une notion tout à fait capitale et qu'on pourrait s'impliquer peut-être beaucoup plus encore un certain nombre d'autres professionnels de santé que ceux qui sont déjà impliqués dans la prise en charge. Comment vous voyez la réception par les associations de malades de ces messages de désinformation et de la création de cette confiance justement avec les professionnels et avec les autres forces vives que peuvent être les autorités de santé, l'administration et d'autres acteurs qui peuvent être des élus locaux, qui peuvent être... Voilà, il y a des régions qui ont fait des choses magnifiques, on en parlera tout à l'heure avec Gislaine sur la région Grand Est en particulier. Voilà, comment pour vous on peut créer dans ce climat des informations les raisons et surtout les conditions de la confiance?
Mais écoutez, pour nous les associations, alors c'est vrai que on peut dire que les anti-vax c'est un petit peu un fourre-tout, mais en tout cas toutes les personnes qui mettent en avant des fausses informations, des informations pourries, comme vous dites. Les personnes qui ne croient pas en cette vaccination, qui ne veulent pas se faire vacciner, cette vaccination-là ou une autre d'ailleurs. C'est un phénomène qui existe depuis, j'ai envie de dire, depuis toujours. Et on doit faire avec, comme tout le monde. Mais ce qu'on préfère faire, c'est plutôt s'attacher à ce qui fonctionne. Et en réalité... si on regarde les chiffres de l'enquête à venir, le sujet de la confiance n'en est pas un. Les personnes à risque se disent majoritairement favorables à la vaccination. En fait, 41% très favorables, 45% plutôt favorables. Donc, ça veut dire quand même 86% de la population qui est concernée est vraiment tout à fait favorable à la vaccination. Nous sommes des personnes quand même très médicalisées et avec un suivi un peu comme le lait sur le feu. Et je pense que les personnes qui vivent ces maladies depuis longtemps savent bien que si elles sont toujours là après un certain nombre d'années, c'est bien parce que y a une confiance envers les soignants et envers ce qui est mis en place. Donc, c'est vrai que même chez les immunodéprimés, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir se faire vacciner, qui ne vont pas croire. Mais c'est vraiment une petite partie de la population et on préfère insister sur les situations dans lesquelles tout a été mis en œuvre et où ça a permis de continuer d'aller bien. Et si aujourd'hui... beaucoup de personnes attrapent le Covid parce que Omicron est ce qu'il est extrêmement contagieux. Mais on est quand même bien content de faire un Covid maintenant plutôt qu'il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, on n'aurait probablement pas survécu. Enfin, moi, ça a été mon cas, j'ai fait un Covid récemment. J'étais bien contente d'avoir fait mes vaccinations, parce que même si mon taux d'anticorps avait certes diminué, ben c'est ça qui a fait que j'ai pu l'attraper, mais malgré tout, j'étais quand même bien protégée et ça n'a pas été très grave. Donc, j'ai bien noté que Dominique était quand même encore inquiète, mais bon, on va dans le sens d'un Covid moins grave et on continue de travailler sur les différentes options. Donc, moi, je trouve que ce sont des raisons plutôt d'avoir confiance.
Bon, bah super, c'est un excellent message. Continuons à passer des messages positifs, donc, et renforçons cette communication positive et surtout consensuelle de tous les acteurs autour de la mobilisation sur la vaccination. J'ai envie de faire quelque chose parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Yves Buisson, qui est académicien de médecine et qui est le grand expert des questions de vaccination à l'Académie. Yves, si vous pouvez brancher votre caméra, si vous m'entendez.
Oui.
Je voudrais que vous nous donniez, un peu comme grand témoin, que vous nous donniez un peu votre ressenti sur cette table ronde.
Bien, j'ai raté un peu le début. Hein. Je ne sais pas si ça vous a été transmis, parce que je suis allé à l'Académie de médecine, je n'avais pas l'information que c'était uniquement en distanciel. Donc, je vous prie de m'excuser d'avoir manqué les premiers échanges qui devaient être aussi passionnants que ceux auxquels j'ai assisté depuis 9 heures. J'ai commencé à 9 heures. Ma réaction pour l'instant est très très positive et j'en tire une information des échanges que je viens d'entendre, c'est que finalement la Covid n'a pas été qu'une catastrophe puisque elle a permis deux choses, d'abord de faire comprendre au grand public qu'il y avait des personnes à risque et qui étaient ces personnes à risque et pourquoi elles étaient à risque. Et puis deuxièmement, de restaurer l'importance des vaccins. Parce que il y a derrière l'hésitation vaccinale qu'on affuble aux Français en général, à la France en général, il y a surtout une méconnaissance des vaccins qui a été bien soulignée, méconnaissance du grand public, mais méconnaissance aussi du monde médical. Peu de médecins connaissent bien les vaccinations. Peu de médecins sont capables de bien informer leurs patients lorsque leurs patients leur demandent « est-ce que je dois me faire vacciner contre telle ou telle maladie ?» Donc, beaucoup sont un peu ignorants et alors soit donnent de mauvaises informations, soit jouent la prudence en disant « on verra plus tard ». C'est une chose qu'on a en particulièrement constatée. On a fait à l'Académie nationale de médecine, ça fait un an ou un an et demi, on a fait un rapport pour inciter vraiment à la vaccination des femmes enceintes, notamment contre la grippe, puisque maintenant elles doivent être vaccinées contre la grippe. Mais alors il y a une réticence terrible à vacciner les femmes enceintes contre la grippe, et puis contre la coqueluche. Hein, c'est vraiment deux vaccinations. On en a pas beaucoup parlé avec Odile Launay, qui est tout à fait sur cette tendance, bien sûr, mais on voit que les médecins généralistes et même les médecins qui suivent les femmes enceintes ne sont pas toujours partants pour faire vacciner leur patiente. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je crois que il y a encore de gros efforts à faire. Et puis, il y a une chose qui a été soulignée qui me semble essentielle, justement, pour compléter l'information aussi bien des patients que des médecins, c'est le carnet de vaccination électronique, qui est un outil mais majeur, considérable, et qui est encore pas assez utilisé, alors qu'il existe depuis maintenant 12 ans, qu'il a acquis toutes ses lettres de noblesse, il n'y a aucun lien commercial, donc on peut vraiment le proposer en toute impunité, hein, de ce côté-là. Et je crois qu'on devrait s'en servir plus, vraiment le recommander beaucoup plus largement, aussi bien aux patients qu'aux médecins, pour faciliter justement ce dialogue médecin-malade autour de la vaccination.
Merci beaucoup Yves. Je crois que ça va être un des sujets d'ailleurs dans la table ronde numéro 3, puisqu'on a la chance d'avoir Laura Letourneau qui est à la délégation interministérielle sur la santé numérique et qui viendra nous parler de l'espace numérique de santé qui est mis en place justement par les autorités et en particulier la Caisse nationale d'assurance maladie et qui permettra justement d'avoir une gestion beaucoup plus fluide de toutes nos informations sur le plan de la santé et en particulier de celles qui concernent la vaccination. Je vois qu'il n'y a pas de main levée. Les questions, alors vraiment merci à Paul Loubet. Paul Loubet fait un travail fabuleux, je trouve, que je voudrais souligner. C'est que je vois qu'il y a beaucoup de questions techniques dans le chat et questions qui n'appellent pas forcément à les passer à l'intégralité de l'audience. Et Paul, très gentiment, est en train de faire un travail remarquable d'informateur. Et de réinformateurs et de réassureurs par rapport aux différentes questions qui sont posées par l'auditoire. Donc ça, c'est vraiment, je trouve ça tout à fait sympathique et convivial. Alors, puisque c'est ça,